Je reprends donc, je suis avec Anne Fontaine. Bonjour Anne Fontaine.
Bonjour.
Pour votre dernier film, Marmelo la belle éducation, qui est donc l'adaptation du livre En finir avec Eddie Bellegueule de Édouard Louis. Est-ce que vous avez eu, à la lecture du livre, l'envie de le transformer en film et peut-être, de, bien sûr, avec des adaptations, de nous présenter ce protagoniste qui a une histoire de sorte de chemin initiatique?
Alors d'abord, Marvin n'est pas une adaptation du livre d'Édouard Louis. C'est vraiment un point de départ, puisque à peu près 70% du film raconte comment il va se sortir de cette enfance évidemment très difficile. Donc c'est vraiment une source d'inspiration très intéressante et très importante, en finir avec Eddie Bellegueule. Mais ensuite, ce qui m'intéressait pour moi, c'était le chemin initiatique par lequel il va rencontrer des êtres qui vont déposer un regard sur lui, qui vont l'amener à s'inventer lui-même, à trouver une voie vers sa vocation, vers un chemin artistique. Donc c'est une adaptation extrêmement libre. Mais ce qui m'intéressait, c'était le parcours de ce jeune garçon qui est au départ victime d'une famille qui ne voit pas sa singularité, qui ne le reconnaît pas comme être différent, qui ne voit pas sa souffrance. Il est stigmatisé à l'école parce qu'il a une beauté féminine, on va dire, de manière un peu grossière, parce que qu'est-ce que c'est que le féminin, mais disons qu'il n'est pas identifié comme quelqu'un de viril, et donc il est traité, il est ostracisé, il est violenté,
stigmatisé
parce qu'il est différent. Et grâce ou malgré sa différence, il va petit à petit trouver une voie, grâce d'abord à sa principale de son collège qui va le mettre en contact avec un petit cours de théâtre où il va pouvoir, pour la première fois de sa vie, exprimer quelque chose d'un autre ordre, et il va pouvoir s'exhiber sur scène et transformer sa difficulté à être en quelque chose qui communique avec les autres, puisque c'est une théâtralité de sa propre vie qu'il va proposer au départ. Puis plus petit à petit, il va avoir une sorte de parcours initiatique assez bouleversant où il va fuir sa vie d'origine pour construire une nouvelle identité. Donc c'est vraiment cette quête et cette construction, c'est une success story, mais où on voit plus comment les choses vont se produire, quels êtres il va rencontrer, qui va lui faire confiance et comment il va se sortir de ce mauvais départ, disons.
Un départ où il est violenté, où c'est un milieu quand même assez rural, où l'art n'a pas tellement de place. Et en fait, grâce aux bonnes rencontres, à travers votre film, on comprend qu'il y a les bonnes rencontres au bon moment. On peut se révéler et sortir de sa chrysalide.
Bien sûr, les bonnes rencontres au bon moment sont déterminantes, mais il faut aussi avoir en soi un taux de détermination et de possibilité de comprendre que c'est un regard qui va vous aider, vous propulser à sortir de vous-même. Il y en a plusieurs dans le film. Il y a des femmes, il y a des hommes, et il y a aussi le parcours d'aller vers sa propre sexualité, de sa propre différence, et d'en faire une force plutôt que d'en faire un ennemi. Il va découvrir au fur et à mesure qu'il a une sexualité différente, qu'il a un rapport affectif différent à ce que son milieu, en tout cas d'origine, le conduit. Et c'est aussi la vocation, la découverte d'une vocation, la découverte finalement d'un parcours artistique qui va se faire tout au long de cette histoire.
Alors Anne Fontaine, je rebondis sur vos propos. Donc c'est la conjonction à la fois des bonnes rencontres et aussi la révélation à travers l'art, cette voie qui s'ouvre à lui, qui lui permette à la fois de se dédouaner de son héritage, de s'affranchir de ce qu'il a reçu, et enfin de s'assumer.
Oui, exactement. Il va rencontrer un professeur d'art dramatique dans la personne que joue Vincent McCain, qui joue ce directeur de théâtre, qui vient de milieu modeste lui aussi, qui est homosexuel, qui s'est affranchi de son milieu, et qui va mettre des mots, comme telle une catharsis, sur finalement ce que vit Marvin intérieurement et qu'il n'arrive pas à exprimer. Et donc cette rencontre va être un choc et va être déterminant dans sa progression et dans sa façon aussi d'assumer sa différence et d'en faire quelque chose, d'en faire un acte poétique, un acte artistique.
Une force.
Une force, bien sûr, parce qu'il a une force, de toute façon, depuis le départ, il résiste intérieurement. Mais c'est difficile, parce que vous êtes dans un milieu où il n'y a pas d'ouverture, où il n'y a pas de culture, où l'idée du théâtre est une hérésie, où l'idée des différents est un problème, où à l'école, vous êtes harcelé parce que vous êtes différent. C'est vrai que la difficulté à trouver une porte de sortie est considérable. Et là, il y a une principale jouée par Catherine Mouchet qui commence le travail très fortement. Sans elle, peut-être rien ne se serait produit. Puis d'autres vont venir ensuite, Vincent McCain, Charles Berling, qui est un personnage qu'il rencontre dans une boîte de nuit gay, Roland, et Isabelle Huppert, qui va jouer le rôle d'une fée, d'une certaine façon, qui va poser sur son destin un tour tout à fait inattendu. Et ce qui, je crois, est intéressant, c'est que finalement, tout le monde a quelque chose en soi de Marvin. Tout le monde a eu une complexité avec ses origines, avec ses parents. Tout le monde s'est senti différent à un moment de sa vie, qu'on soit grosse, noire, lesbienne. Donc il y a quelque chose d'assez universel dans son parcours, et de voir comment on peut arriver à se sortir et à transcender une situation telle que celle-là et en faire quelque chose de beau sans oublier ses origines, parce qu'en fait, est-ce qu'on doit trahir ses origines pour faire quelque chose par soi-même? Est-ce qu'on peut y revenir? Quel est le rapport à la honte de ses origines? Toutes ces questions, qui sont des questions importantes, métaphysiques, sont dans l'histoire de Marvin.
Et puis on comprend aussi que ses origines, quelle que soit après sa décision de les renier ou d'en faire un socle, elles seront toujours là quand même, elles ont construit sa première identité.
Bien sûr, et elles font sa force aussi. Et quand il revient plus tard, lorsqu'il a réussi, disons, vers son père en particulier, je crois que ces scènes ont quelque chose de très bouleversant, parce qu'on voit que le père s'est déplacé aussi.
Interprété par
Grégory Gadebois, qui est un acteur absolument remarquable, de sensibilité. Et il rend très humain ce personnage qui, au départ, est un personnage très difficile, parce que cloîtré, cloisonné dans ses principes aberrant de racisme,
d'homophobie,
voilà. Et on voit que la misère intellectuelle fait qu'il ne peut pas penser autrement, mais petit à petit, il arrive à se déplacer lui aussi autrement. Mais je crois qu'il y a une scène entre le père et le fils à la fin qui fait qu'on a l'impression presque que le fils a éduqué le père aussi à se déplacer.
Et vous parlez là, vous mentionnez Charles Berling, Isabelle Huppert, Gadebois, et bien sûr, on pense à Finnegan Oldfield. Vous avez choisi ces acteurs pour incarner vos personnages au moment de l'écriture déjà ?
Non, je choisis rarement les acteurs au moment de l'écriture. Ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois, mais c'est assez rare. Je préfère développer l'histoire et puis me dire quel acteur pourrait transporter le rôle et pourrait le porter au plus profond de lui-même. Grégory Gadebois, par exemple, je n'avais jamais tourné avec lui, je le connaissais, mais dès que je l'ai rencontré, parlé avec lui du personnage, j'ai regardé son visage et j'ai senti que malgré la dureté du personnage, il y aurait une empathie très profonde du spectateur à son endroit, et que c'était vital de ne pas folkloriser les rôles de souche populaire et de ne pas les coller au sol, de ne pas les caricaturer, même s'ils partent d'un schéma qui peut paraître assez caricatural, mais malheureusement c'est assez vrai dans la vérité sociologique de ces personnes.
Il y a une rudesse.
Voilà, une rudesse. Mais pourtant, il aime ses enfants, mais il ne sait pas l'exprimer. Quand il accompagne, par exemple, le petit Marvin au train pour sa classe de théâtre et qu'il lui donne un peu d'argent et qu'il le met en garde sur les problèmes entre les Algériens, les Marocains, lesquels sont les plus compliqués, les plus vicieux, dit-il. Il dit des choses terribles et en même temps, c'est une façon de dire qu'il a peur pour lui, qu'il a envie de le protéger. Donc c'est vraiment cette misère socio-culturelle finalement qu'il y a dans tellement de familles françaises encore aujourd'hui.
Qui est aussi une misère émotionnelle, du coup.
Bah, évidemment, ça entraîne toute une une façon de sentir, de ne pas s'exprimer, de ne pas pouvoir s'exprimer sur ses émotions directes, de penser que l'homosexualité est une maladie mentale. Et c'est encore complètement vrai dans les petits, tout petits endroits, mais aussi dans certaines villes. Et c'est pas seulement dans la campagne, cette perception.
Et en même temps, on sent qu'il y a beaucoup d'amour de la part des deux parents, même s'ils ne savent pas l'exprimer.
Vous l'avez senti. Donc
je l'ai senti.
Si vous l'avez senti, c'est que c'est ce qui est passé. C'est la façon dont j'ai essayé de raconter cette histoire. Il y a de l'amour, mais eux aussi sont amputés. Ils sont
emmurés un petit peu dans leur éducation.
Dans le manque d'éducation, l'étroitesse de vie dans laquelle ils sont, dans la pauvreté réelle et aussi culturelle dans laquelle ils sont. Et ils ont ce fils qui est une anomalie, qu'ils ne comprennent pas comment un garçon aussi gracieux, aussi féminin peut être dans cette famille. Donc ils sont en même temps interrogatifs, ils essayent de comprendre et ils peuvent l'insulter, mais ils l'aiment d'une certaine façon. S'ils ne sont jamais violents à son endroit, ils ont subi des violences à l'école, mais comme disait le jeune garçon qui interprète Marvin Petit, il me disait l'autre jour, dans le harcèlement à l'école, c'est dans tous les milieux. Dans les écoles bourgeoises, il suffit d'être différent, roux, gros, pas comme il faut, pour subir des violences à l'école très, très cruelles. Donc ça, c'est pas uniquement de ce milieu-là, je dirais. Mais c'est vrai que ses parents ne voient pas, n'interrogent pas les coups qu'il a sur la joue. La mère dit, bon, tu t'es fait frapper, c'est ça. Et voilà, elle passe au-dessus, c'est comme si c'était pas important, alors que c'est très important, évidemment.
Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens de réagir.
Bien sûr, ils n'ont pas les moyens, ils ont trop de problèmes eux-mêmes, très peu d'argent, trop de dettes, une vie trop dure.
Et vous mentionnez le jeune acteur qui interprète Marvin John. Vous pouvez parler de cette rencontre, s'il vous plaît.
Donc, il s'appelle Jules Poirier et il est absolument extraordinaire, je trouve, parce qu'il fallait trouver donc non seulement un acteur jeune compatible avec Finnegan Oldfield, puisqu'il jouait Finnegan Petit, Marvin Petit, à 12-13 ans. Mais il fallait trouver quelqu'un qui ait la sensibilité d'exprimer l'indicible, d'exprimer quelque chose qu'on ne peut pas dire. Et quand j'ai vu ce jeune garçon, au bout de 4 mois de recherche, j'ai tout de suite senti qu'il avait une aura cinégénique. Donc ça, c'est la première chose qui m'a frappée. Bien sûr qu'il était, il pouvait ressembler à Finnegan, mais ça, c'était obligatoire, sinon c'était pas possible de s'y intéresser. Mais ensuite, j'ai senti qu'il avait une profondeur, qu'il avait une façon d'écouter très particulière. J'ai fait des essais multiples pour en être sûr. Et il a une présence cinématographique incroyablement, elle n'y avait jamais joué, incroyablement forte. Quoi.
Et dans le regard déjà.
Dans le regard, dans la façon sensible d'exprimer la douleur sans jamais la charger, sans jamais la surjouer. Parce qu'on a très peur chez les enfants qui cabotinent et qui surjouent. Et de surcroît, ensuite, ils se sont vus avec Finnegan pour qu'on trouve bien le pont entre les deux, le physique, les cheveux, la peau, le regard, la façon de parler. Donc ça a été un travail de fusion, en fait, réciproque. Mais il est incroyable. Là, je l'emmène avec moi voir dans les débats, dans les villes françaises où on a été. On était dans cette 8 villes avec lui. Il est incroyable. Il arrive à la fin. Les gens lui posent des questions. Il est d'une précision. Il est étonnant. C'est un garçon étonnant.
Donc ça a été une belle rencontre, une belle découverte. Avec les autres comédiens, vous avez travaillé comment? Puisque vous aviez sans doute des attentes par rapport à leur interprétation, par rapport aux personnages que vous aviez fait naître.
Je travaille... D'abord, le travail, c'est surtout le choix de l'acteur. Puis ensuite, je les prends un par un, séparément, pour leur transmettre des choses, pour voir comment ils vivent les situations... Et puis ensuite, c'est une alchimie. J'ai répété 15 jours avant le tournage la famille. Je voulais constituer la famille avec Grégory, Catherine Salé, les enfants.
Donc en immersion dans le lieu.
Ah oui, dans le lieu, toujours. Ben, j'essaie toujours, 15 jours avant le tournage, de faire, peut-être pas 100% du film, bien sûr, mais d'en faire pas mal pour essayer des choses, pour tester, pour créer, déjà une première couche, parce qu'un film et un tournage, c'est comme un millefeuille. Il faut créer plusieurs strates pour laisser tomber certaines. Et ce qui est bien dans la répétition, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être efficace. Vous cherchez. Et donc, je cherche avec les acteurs et puis je me pose des questions sur de mise en scène, de me dire, tiens, ça, c'est intéressant de ce point de vue-là, de ce côté-là, de la pièce et tout. Donc, j'ai fait un travail assez approfondi sur la famille, surtout la famille Bijoux.
La famille Bijoux, la famille de Marvin. Et là, vous mentionnez, à travers ce que vous venez de dire, que vous êtes en immersion. Donc, vous vous imprégnez aussi d'un autre protagoniste important, le lieu.
Ah ben, le lieu, le choix du lieu, le choix de la maison, le choix de l'endroit est déterminant parce que c'est un acteur du film. Donc on met toujours longtemps à se dire c'est ça. Là, la maison des bijoux, je l'ai trouvée très rapidement, bizarrement. Et je me suis dit, elle est juste la maison parce qu'elle est pas trop exagérée. Elle est quand même un peu évidemment précaire, mais il y avait quand même une poésie dans cette maison, je trouvais. Il y avait quelque chose qui je me disais, elle est cinématographique. Et après, j'en ai visité plein d'autres, mais je suis revenue à celle-là.
Mais vous aviez choisi déjà la région.
Au départ, j'ai hésité entre le Nord, il y avait plusieurs possibilités. J'ai trouvé que beaucoup de films qui traitent de la misère sociale sont dans le Nord. Donc c'est comme un archétype, une convention. J'ai repensé aux Vosges, de par le fait que j'avais tourné Nettoyage à sec pas loin, à Belfort, il y avait ça. Puis un jour, je parle avec Grégory Gadebois. Je lui dis, et les Vosges, qu'est-ce que t'en penses? Et il me prend l'accent des Vosges, et il me dit, mais moi je connais très bien les Vosges. Et de là, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un tour là-bas à nouveau. Donc j'ai visité des familles, des maisons, et j'ai trouvé que c'était une région intéressante et pas, disons, attendue forcément sur ce genre d'histoire.
Et là, on a mentionné certains de vos films, vous avez dit Nettoyage à sec, j'ai parlé aussi des Innocentes. Comment vous choisissez un sujet? C'est lié à une rencontre, un livre, une rencontre, une histoire qui vous émeut?
Ça, bien sûr, il faut que ce soit quelque chose qui m'émeut. Mais ça dépend, j'ai vraiment des exemples très différents, puisque Les Innocentes, c'est par exemple un sujet qui m'a été amené par des producteurs, mais j'ai refait tout le scénario avec Pascal Benizère. Gemma Bovary, c'est une adaptation d'un roman graphique anglais. Les Perfect Mothers, c'est une nouvelle de Doris Lessing complètement adaptée et revisitée par Christopher Hampton et moi. La fille de Monaco, c'est un sujet original. Comment j'ai tué mon père, c'est un sujet original. Nettoyage à sec, c'est un sujet original. Donc en fait,
chaque film a son histoire.
Chaque film a une histoire, mais toujours une histoire qui correspond à quelque chose que je sens profondément au moment où je le fais, qu'il y a quelque chose où je sens qu'il y a un effet miroir, même inconscient, même si je ne sais pas forcément exactement où, mais je le découvre après, une fois que j'ai fait le film, qu'il y a une partie de moi qui peut s'exprimer, même de manière cachée, sur un élément biographique, sur quelque chose où j'ai l'impression que je parle de quelque chose que je connais, même si c'est dans des milieux différents, parce que ce soit Coco avant Chanel, Marvin, ou la Belle Éducation, ou Les Innocentes, ça n'a rien à voir, a priori. Il y a toujours des thématiques que je retrouve sur la transgression, sur l'ambiguïté sexuelle, sur le fait que comment on sort de son milieu, de sa ligne, comme le côté autodidacte aussi. J'ai pensé à Coco avant Chanel, avec Marvin, je me suis dit, tiens, c'est finalement un biopic d'un inconnu, mais c'est aussi, il a des bases similaires à Coco Chanel, qui était sortie d'un milieu épouvantable, qu'il a abandonné de surcroît, et qu'elle a découvert finalement sa singularité en étant au départ victime d'un physique très différent et d'une le fait qu'elle soit très maigre comme un petit garçon, d'une androgynie tout à fait inédite pour l'époque, et que c'est ça qui a fait qu'elle a découvert une façon différente d'habiller les femmes. C'est ce thème-là qui m'a conduit à faire ça. C'est pas de faire un film sur Chanel, je m'en foutais. C'était de faire ça. Et j'ai pensé qu'il y avait un rapport entre Marvin, quelques années plus tard, et en tout cas sur mon désir de me dire, c'est cette histoire que j'ai envie de faire à ce moment-là. C'est toujours un truc un peu, heureusement, une part aveugle de soi-même. Moi, je fais pas mal de films, donc j'ai la chance d'avoir un rythme très soutenu. Donc il faut que ce soit quelque chose qui me tienne à cœur très profondément, parce que c'est difficile de faire un film. Donc c'est une grosse, un gros investissement psychologique, enfin de tout.
Physique aussi,
physique,
je pense.
Physique, morale, enfin ça envahit tout. Et donc il faut être sûr que vous parlez d'un endroit, que vous le réussissiez ou pas, que vous parlez d'un endroit que vous connaissez. Moi, c'est ma façon, en tout cas, de choisir.
Et dans les protagonistes que vous avez mentionnés, ils ont en commun qu'ils ont pu casser ce qu'on attendait de leur destin, soi-disant tout tracé. Ils ont pu sortir de carcan.
Ce que je trouve le plus intéressant dans la trajectoire de personnages, c'est quand ils dévissent de leur trajectoire. C'est-à-dire la part aveugle qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'ils ignorent, en fait, c'est la partie... C'est ce que dit d'ailleurs Catherine Mouchet, que c'est la partie de soi-même qu'on ne connaît pas, parce qu'on a chacun une partie de soi-même qu'on ne connaît pas, et qui peut tout d'un coup être habitée, éveillée, allumée par une rencontre, par un désir, par un choc. Et donc c'est sur ça que ça m'intéresse de travailler, sur cette zone... qui fait que c'est une zone opaque qu'on ne connaît pas forcément, du désir, cet obscur objet du désir, comme on dit, qui va vous faire des choses qui ne sont pas, qui sont inédites, qui sont voilà, une forme de révélation, par moments difficiles, mais aussi vers quelque chose d'heureux. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie et au cinéma, parce que le lieu du cinéma, c'est le lieu où l'imaginaire peut devenir réel, où on peut tout d'un coup incarner des zones voilà, poétiques, des zones de rêverie, des zones où on peut se découvrir soi-même autrement. Donc si je ne faisais pas ça, ça ne m'intéresserait pas.
Merci Anne Fontaine, on doit vous libérer, vous êtes attendue à Lausanne. Alors bon succès pour votre film, Marvin, La Belle Éducation. Merci.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
Et voilà.